Grand reportage.
Ce que nous voulons combattre, c'est le trafic de drogue, parce que le trafic de drogue est pire que la marijuana. Ce que nous constatons, c'est que la répression seule ne résout pas le problème. Ce que nous voulons expérimenter, c'est essayer de retirer ce marché aux trafiquants de drogue.
Al narcotráfico.
En 2013, l'Uruguay devenait le premier pays au monde à légaliser la culture et la vente de cannabis récréatif. Prenant acte de l'échec de l'approche répressive de la guerre contre la drogue, le président d'alors, José Mujica, que vous venez d'entendre, proposait de faire de son pays un laboratoire pour le monde entier. 7 ans plus tard, cette expérience inédite commence à porter ses fruits. En Uruguay, l'apprentissage du cannabis légal... C'est un grand reportage de Théo Conscience.
Il est 11h30 dans le quartier cossu de Positos, à Montevideo. Comme tous les jeudis à cette heure-ci, une file de plusieurs dizaines de personnes s'est formée devant la pharmacie Lillet. Tous sont venus acheter du cannabis. 7 ans après le vote de la loi légalisant la marijuana, seules 17 officines sont autorisées à en vendre dans tout le pays. La pharmacie Lillet n'ouvre qu'à midi, mais certains, comme Valeria, font le pied de grue depuis plusieurs heures.
Oui, 2 heures d'attente, c'est compliqué. Il est possible de réserver sur Internet, mais la page bug tout le temps, donc c'est mieux d'assurer le coup en faisant la queue.
Si cette jeune fille qui regarde régulièrement sa montre est arrivée avec autant d'avance, c'est parce qu'elle sait que, comme toutes les semaines, certains repartiront les mains vides. À l'intérieur de la pharmacie, Alicia Tolomei regarde les gens arriver d'un air soucieux. Des cheveux bruns coupés courts, des yeux bleus encadrés par des lunettes à monture papillon, cette pharmacienne est habituée au fil d'attente à rallonge.
Ça ne va pas suffire, hein. Nous n'en aurons pas pour tout le monde malheureusement. On s'adapte, on essaye de trouver un moyen de satisfaire tout le monde. Mais il y en a toujours quelques-uns qui repartent les mains vides. On ne peut pas tous les satisfaire.
Alicia travaille dans la pharmacie Lilène à mi-temps depuis 2 ans. Enrique Curbelo, le propriétaire de l'officine, l'a engagé pour l'aider à recevoir les personnes qui viennent acheter leur cannabis. Une nouvelle clientèle qui a permis à ce septuagénaire de sauver son commerce. Depuis quelques années, rester compétitif face aux grandes chaînes de pharmacie devenait difficile.
C'est quelque chose qui aide à rivaliser avec ces gens qui ont beaucoup de moyens, parce que cela attire une autre clientèle dans la pharmacie, qui achète d'autres choses. Les ventes de cannabis représentent 40% du chiffre d'affaires de la pharmacie.
Il est midi moins quart. Enrique et Alicia décident d'ouvrir avec quelques minutes d'avance. Les clients rentrent un par un. Tous sont inscrits sur un registre officiel.
On scanne le paquet. La personne met son pouce sur le scanner et elle est enregistrée. Donc, le message « Vente autorisée » s'affiche. Il faut être inscrit et il faut venir l'acheter à un certain horaire. Une personne peut acheter 10 grammes par semaine, mais toujours le même jour, à la même heure.
Sur l'écran d'ordinateur que regarde la pharmacienne, le nom des clients ne s'affiche à aucun moment. Le système leur garantit l'anonymat et leur permet d'avoir accès à un produit rigoureusement contrôlé.
Ici, ils savent que l'on vend un produit autorisé qui respecte les normes. C'est un produit sûr et sans danger. Je pense que pour tous, les jeunes et les moins jeunes, c'est un bon système.
Il est 14h. En un peu plus de 2 heures, la pharmacie a déjà épuisé son stock hebdomadaire de cannabis. Alvaro Facundes fait partie des clients qui repartent bredouilles.
Les stocks qu'ils ont sont assez limités. Jeudi dernier, je suis venu et déjà ils n'en avaient plus. Mais bon, rien de grave.
Pour éviter ce genre de déconvenue, plusieurs pharmacies ont mis en place un système de réservation par Internet et une application pour smartphone. Mais le fond du problème reste le même. En matière de cannabis légal, l'offre reste cruellement inférieure à la demande des 41 000 personnes inscrites sur le registre de l'État. Si l'offre est insuffisante, c'est d'abord en raison de la sous-production des 2 entreprises chargées par le gouvernement de produire du cannabis. Confronté au défi de faire sortir de terre une activité jusque-là inexistante sous sa forme réglementée, elles ont dû apprendre sur le tas. Elles ne produisent actuellement que le quart de la quantité qui leur est autorisée. Pour gonfler les volumes, trois nouvelles entreprises ont obtenu une licence pour produire du cannabis récréatif en novembre 2019.
Mi nombre es Santiago Barrios.
Je m'appelle Santiago Barrios. Je suis PDG de Uruguay Biopharmaceutical Research Company. Nous sommes depuis peu un des trois nouveaux détenteurs de licences pour produire du cannabis récréatif en Uruguay.
De licencias recreativas en Uruguay.
Nous retrouvons Santiago Barrios dans un café du centre-ville de Montevideo, car son entreprise n'a pas encore de locaux. Rasé de près, le col de sa chemise à carreaux qui dépasse de son pull, ce trentenaire voit les déboires de ses concurrents comme une opportunité pour les nouveaux arrivants comme lui.
L'information sur le cannabis s'est beaucoup enrichie ces dernières années. Et nous avons des personnes qui ont déjà travaillé dessus, qui se sont déjà trompées et qui savent déjà comment amender ces erreurs. Cela permet d'éviter ces coûts d'apprentissage payés par les deux premières entreprises qui ont investi dans des choses qui ne leur ont pas servi par manque d'information.
Parmi les plâtres essuyés par les deux premières entreprises, il en est un qui subsiste, l'obstruction du système bancaire. Malgré sa légalisation au Colorado ou en Californie, le cannabis continue d'être considéré comme une drogue par l'État fédéral américain. Il est donc interdit aux banques de traiter des flux d'argent liés à cette substance. Et la puissance financière des États-Unis est telle qu'ils peuvent imposer leurs lois au-delà de leurs frontières. Un obstacle de taille dans une économie très dollarisée comme celle de l'Uruguay, regrette Santiago Barrios.
Nous ne pouvons pas travailler avec les banques. Il y a des méthodes par lesquelles on y arrive que nous ne pouvons pas révéler. Mais lamentablement, nous devons nous comporter comme si nous blanchissions de l'argent.
Pourquoi vous ne pouvez pas nous expliquer ces solutions ?
Parce que je ne veux pas que les banques sachent comment nous faisons. Mais en gros, on a essayé différentes alternatives bancaires pour lesquelles il existe des contrôles plus ou moins rigoureux.
Avant de se lancer dans le cannabis, Santiago Barrios a travaillé comme expert comptable pour de grandes firmes internationales. Une expérience qui lui a été précieuse pour contourner ce problème bancaire. Il voit désormais cet obstacle comme un avantage. Il limite la concurrence sur un marché selon lui promis à un grand avenir.
Pour nous, la consommation de cannabis récréatif va remplacer celle de la bière et du tabac. C'est un substitut. De fait, la première année de légalisation au Canada, les ventes de bière ont baissé de 13% à la faveur de l'augmentation de celle du cannabis. Donc, une partie des consommateurs se sont déplacés de la bière vers le cannabis.
L'étude citée par Santiago Barrios est contestée, mais deux autres enquêtes menées aux États-Unis soulignent la même tendance. En attendant, ce n'est pas vers la bière que se tournent les consommateurs de cannabis frustrés par les pénuries à répétition en Uruguay. Ils achètent leur marijuana via d'autres canaux de distribution, plus ou moins légaux. Sur la Rambla de Montevideo, cette large promenade qui longe le Rio de la Plata, nous rencontrons Natalia Delgado et Matias Manta. Elle a 31 ans et enseigne la littérature. Lui, 23 ans, termine ses études d'ingénieur. Comme de nombreux Uruguayens, les deux amis se retrouvent sur la Rambla pour partager un maté, une infusion d'herbes amères très populaire en Uruguay. Ils l'accompagnent d'un joint de marijuana, un porro comme ils disent. Tous les deux sont inscrits sur le registre permettant d'acheter du cannabis en pharmacie. Mais Natalia rappelle que la loi prévoit deux autres voies d'accès.
Avec notre système, tu dois choisir une voie pour l'achat du cannabis. Soit tu t'inscris dans un club, soit tu cultives chez toi, soit tu t'enregistres pour pouvoir acheter en pharmacie, ce qui est la moins coûteuse des options. Enfin, cultiver soi-même est plus économique, mais en même temps, ça demande plus de travail. Et dans les clubs, tu dois entrer sur recommandation d'un membre.
Le prix et l'investissement personnel ne sont pas les seules choses qui diffèrent en fonction de la voie choisie. La qualité et la concentration du cannabis varient aussi et correspondent à différents profils de consommateurs.
La marijuana des clubs est plus gourmet, elle a un effet plus fort, plus festif, alors que celle de la pharmacie est pensée pour le consommateur qui fume un joint et qui, deux ou trois heures plus tard, a quelque chose à faire.
En tout, l'État recense 8000 autocultivateurs et 5000 membres de clubs. Autant de personnes vers qui les consommateurs en pharmacie décident parfois de se tourner quand les officines sont en rupture de stock. C'est ce qu'a fait Mathias quelques jours auparavant.
Il y a toujours un ami qui fait partie d'un club ou qui fait pousser. La semaine dernière, par exemple, j'ai acheté clandestinement comme ça et ça m'a coûté 200 pesos le gramme. En pharmacie, c'est 250 pesos pour 5 grammes.
Les membres des clubs peuvent acheter 40 grammes par mois. 40 grammes, c'est énorme. Donc, ils partagent ou ils font leur petit commerce.
Ces arrangements entre consommateurs qui font grimacer Natalia ont donné naissance à ce que l'on appelle le marché gris. Il ne relève pas du trafic de drogue que la loi de 2013 voulait combattre, mais n'est pas légal pour autant. En Uruguay, la régulation du marché du cannabis a été confiée à un organisme public spécialement créé dans ce but, l'Institut de Régulation et de Contrôle du Cannabis, l'IRCA. Nous nous rendons place de l'Indépendance, au cœur de Montevideo, pour rencontrer son directeur, Martin Rodriguez. Politologue de formation, ce quadragénaire aux cheveux grisonnants est spécialisé dans la gestion des politiques publiques. Selon lui, l'émergence d'un marché gris du cannabis était prévisible, mais ne remet pas en cause le bien fondé de la légalisation.
N'importe quel marché régulé, que ce soit d'aliments, d'alcool ou de tabac, a une composante illégale, la contrebande ou la fabrication illégale, par exemple. Mais en même temps, les consommateurs commencent à se tourner vers un cannabis sans éléments toxiques et délaissent un produit potentiellement plus nocif pour leur santé, comme le prensado paraguayo.
Le prensado paraguayo, littéralement le paraguayen compressé, est un type de cannabis de mauvaise qualité. Il contient en moyenne une cinquantaine de produits toxiques. Élaboré au Paraguay à partir de marijuana séchée au soleil, il se présente sous la forme de blocs bruns très compacts. Avant la légalisation, il représentait 60% du cannabis consommé en Uruguay. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 11% et Martin Rodriguez s'en félicite.
Le prensado paraguayo est un produit qui a une logique de distribution et d'organisation criminelle plus associée au trafic de drogue traditionnel. Ce qui me paraît intéressant, c'est la séparation des marchés. Permettre aux consommateurs d'accéder au cannabis sans avoir à être en contact avec un réseau criminel et éviter ce que les spécialistes appellent l'effet gondole, c'est-à-dire le fait d'accéder à d'autres substances grâce à l'offre du dealer. Ça, c'est un objectif de cette politique publique.
L'IRCA estime que depuis 2014, la régulation a permis de soustraire plus de 30 millions de dollars au réseau criminel. Au-delà de sa qualité, le cannabis légal a un autre argument pour séduire les consommateurs, son prix. Fixé par l'IRCA à un peu plus de 5 euros les 5 grammes, il est particulièrement bon marché.
Le prix est un facteur clé dans la logique de la régulation. Le cannabis vendu en pharmacie a un prix peu élevé pour être compétitif avec les produits de moins bonne qualité sur le marché illégal. Il y a une équation ici qui doit permettre d'une part le développement d'une activité économique rentable pour les entreprises et les pharmacies et d'autre part que ce prix soit intéressant pour ceux qui choisissent de s'approvisionner par cette voie.
Une ligne de crête qui a conduit l'IRCA à augmenter le prix plusieurs fois ces dernières années pour maintenir la rentabilité des entreprises productrices. Les institutions doivent elles aussi s'adapter au fur et à mesure que les problèmes surgissent.
D'un côté, il y a le processus d'apprentissage du secteur privé qui intègre des connaissances et développe des savoir-faire. Mais dans le secteur public aussi, il y a un processus d'apprentissage et d'adaptation. C'est une politique publique très novatrice qui demande des innovations à un niveau institutionnel. L'une d'entre elles est la création de notre institut. Mais d'autres institutions doivent aussi adapter leurs pratiques, comme le ministère de la Santé, de l'Agriculture, la police ou encore le pouvoir judiciaire.
En l'absence d'autres expériences identiques à l'étranger, la mise en place de la légalisation a parfois été laborieuse en Uruguay. La vente de cannabis en pharmacie n'a par exemple commencé qu'en 2017, 4 ans après le vote de la loi. Ces erreurs, ces tâtonnements serviront à d'autres. En 2018, le Canada a sauté le pas de la légalisation du cannabis récréatif et de plus en plus de pays envisagent différentes formes de régulation. Pour eux, le laboratoire uruguayen est alors une ressource précieuse. Depuis 2014, une équipe indépendante de chercheurs suit l'application de la loi de régulation du cannabis. Le projet Monitor Cannabis regroupe des scientifiques de différentes disciplines. Leur travail d'évaluation doit servir à faciliter les échanges d'informations au niveau national et international. Marcos Baudéan est sociologue spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques et membre de Monitor Cannabis. Une barbe blanche de quelques jours sur les joues, il nous reçoit avant le début d'un cours dans une salle de classe de l'université ORT de Montevideo où il est professeur. Depuis quelques années, il multiplie les contacts internationaux plus ou moins formels sur la question de la régulation du cannabis.
J'ai eu des contacts avec des gens au Mexique, en Argentine, au Pérou. Nous avons une expertise qui fait qu'à mesure où d'autres pays avancent sur l'idée de la régulation, ils nous contactent.
Pour ce qui est de l'expérience uruguayenne, Marcos Baudéan fait la différence entre les apports de la régulation en matière de santé publique et ceux relatifs à la sécurité. Selon lui, contrairement à ce qu'espéraient ses promoteurs, la légalisation n'a pas entraîné une diminution de la violence liée au trafic de drogue.
Cette évolution ne s'est pas vérifiée. La violence liée au trafic de drogue a augmenté. Mais il faut garder à l'esprit que cette tendance a commencé avant la régulation. On a pensé que la régulation pouvait aider sur ce point, mais ça n'a pas été le cas.
D'un point de vue sanitaire, en revanche, ce sont les prédictions alarmistes des détracteurs de la légalisation qui ne se sont pas réalisées.
Pendant les débats sur la loi, des hommes politiques ont dit « il va y avoir des morts à cause de la marijuana ». Et ceux qui voteront cette loi seront responsables. Ce qui est clair, c'est qu'en Uruguay, il n'y a pas eu de crise de santé à cause de la marijuana.
Des études montrent que la consommation de cannabis a certes augmenté depuis la légalisation en Uruguay, mais pas plus que dans les pays voisins, où la prohibition est toujours la règle. La loi a en revanche permis aux consommateurs d'avoir accès à un produit de meilleure qualité et à l'État de mettre en place une véritable politique de prévention.
Si une drogue est illégale, l'État consacre la majorité de ses efforts à empêcher la consommation. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas te dire autre chose. L'État ne peut pas assumer de te donner des conseils sur quelque chose d'illégal. De la même manière que l'État ne peut pas te dire « si vous volez votre voisin, prenez soin de ses affaires ». Il ne peut pas te dire ça. Maintenant, si l'État légalise une substance, il peut faire deux choses. Il peut continuer à dire « éviter de la consommer, cette substance, mais comme elle est légale, il peut aussi dire, si vous la consommez, ne le faites pas en présence d'enfants, consommez-la de cette façon, faites attention à ceci ou à cela. »
Beaucoup de consommateurs partagent l'avis de Marcos Baudéan sur les aspects positifs de la régulation. Natalia Delgado, la professeure de littérature que nous avons rencontrée sur la Rambla, se rappelle des dangers qu'elle courait quand elle voulait se procurer du cannabis avant la légalisation.
Quand j'étais adolescente, la marijuana, c'était le prensado paraguayo. Je ne savais pas qu'il existait d'autres types de cannabis. À 15-16 ans, je devais aller dans des points de vente de drogue, qui étaient des lieux vraiment pas nets, hein, dangereux. Je n'étais clairement pas consciente que c'était un peu dangereux.
Des dangers auxquels elle ne s'expose plus quand elle va en pharmacie, ou même quand elle a recours au marché gris, qui s'est mis en place à cause des pénuries à répétition. Mais elle estime que le principal point positif de la loi est qu'elle permet une consommation plus responsable.
Je crois que la réussite la plus intéressante, c'est le fait de déstigmatiser, de commencer à en parler. Pouvoir verbaliser permet au consommateur d'avoir conscience de ce qu'il fait. Il peut discuter d'effets non désirés ou de comment consommer. Pouvoir en parler sans le stigmate du toxicomane est la plus grande réussite selon moi.
L'ancien président uruguayen José Mujica, qui a initié la loi de légalisation du cannabis, en parlait comme d'une expérience que l'Uruguay se proposait de mener pour le monde entier. Arrêter de laisser les trafiquants de drogue prospérer dans l'ombre d'une politique de prohibition vieille de 60 ans. Offrir aux consommateurs un accès sans danger à un produit contrôlé et permettre la mise en place de véritables politiques de prévention. Si beaucoup reste à faire, le laboratoire uruguayen aura au moins permis de renouveler le débat.
En Uruguay, l'apprentissage du cannabis légal, un grand reportage de Théo Conscience, réalisation Eva Piedel.
Série spéciale Coronavirus.